Les titres de cette intervention, c'est très téméraire et donc et aussi très dangereux. Et la question musulmane a plus ou moins la même âge du GCRL et en Europe, et elle est devenue un thème incroyable, un thème très grand, énorme. Donc, c'est pas facile pour moi de trouver une perspective à vous proposer aujourd'hui. Mais ce que j'essayerai de faire, c'est de lire cette question à la lumière des transformations de la liberté religieuse, en sachant que l'utilisation de schématisation idéale typique est toujours dangereuse, parce que bon, dans un contexte pluriel comme celui européen et celui de l'islam, il faudrait décliner tout à fait toujours au pluriel avec beaucoup de différenciations. Mais, donc, pardonnez-moi la généralisation, mais après dans les débats, on pourra entrer dans des questions plus particulières. Alors, premièrement, il n'est pas possible de traiter la question de l'islam en Europe en dehors du cadre méditerranéen, où un processus ambigu, difficile, même dramatique, des spécialisations confessionnelles de l'islam, sa transformation en religion est en cours. Deuxièmement, cette réalisation de ces processus est strictement liée à la construction d'une citoyenneté politique plurielle et, pour ce qui concerne l'Europe, à la construction d'une citoyenneté nationale ouverte à la réception des acquis du constitutionnalisme transnational. On pourrait dire à la construction d'une effective citoyenneté européenne capable d'intégrer des éléments moraux et culturels islamiquement fondés. Donc on est dans le monde du rêve. Hein. Et premier point, les deux rives de la Méditerranée. Et je disais, on ne peut pas parler de l'islam en Europe sans considérer la rive sud de la Méditerranée. En fait, il faut considérer comme permanent, pas seulement la présence des musulmans en Europe, mais aussi leur caractère transnational. L'intégration à tous les niveaux entre les deux rives et les influences entre leurs systèmes juridiques rendent les destins de ces deux rives profondément liés. Les sorts des islams du nord et du sud sont inévitablement liés. La qualité du rapport de l'Europe avec ses musulmans ne peut donc pas faire abstraction de ses rapports avec les musulmans de la rive sud. Donc, quel est le rôle de la liberté religieuse par rapport à la question musulmane en Europe? Traditionnellement, la liberté religieuse représente un des instruments traditionnels avec lesquels l'Europe a regardé cette question. Et c'est possible de distinguer trois étapes, mais je dirais aussi trois tentations de la liberté religieuse dans les rapports entre Europe et Islam dans l'après-guerre. Premièrement, la tentation de la liberté religieuse insignifiante, quand les musulmans étaient seulement un travailleur immigré. Deuxièmement, la tentation de la liberté religieuse facile, jusqu'en 1989, quand l'extension à l'islam des facultés spécifiques de ses droits constitutionnels, libérales, démocratiques, semble simple et irréversible. Troisième, plus récemment, la tentation de la liberté religieuse des polices, de la liberté religieuse en tant qu'instrument pour la sécurité des États-nations et de la cohésion sociale. Or, l'interprétation du droit des libertés religieuses en tant qu'instrument de la sûreté des États-nations et de la cohésion sociale, les passages du droit de la liberté religieuse de la sphère des droits de la conscience à celle de la sûreté relèvent deux dynamiques liées entre elles. D'un côté, interpréter la liberté religieuse en tant que question de cohésion sociale et d'ordre public est lié au fait, on ne pense pas trop à ça, mais je crois, est lié au fait que les contenus basiques, fondamentaux, essentiels de ces droits ont été garantis aux musulmans en Europe. Mais, comme des récentes études ont démontré, ces faits n'ont pas clos la question musulmane, mais elle a plutôt produit une surenchère qualitative. La demande musulmane est passée de celle spécifique et ponctuelle des libertés religieuses à celle globale d'une citoyenneté capable d'intégrer dans la sphère publique les identités religieuses musulmanes. Et par-delà, la crainte sur la cohésion sociale. Mais cela nous porte au cœur de la question parce que la difficulté européenne à répondre à cette demande d'une nouvelle citoyenneté et la réapparition simultanée des thèmes liés à la cohésion sociale et à la sûreté nous rappellent les liens génétiques essentiels entre droits et libertés religieuses et vie des États-nations. Ce n'est pas inutile de rappeler un des derniers discours du Premier ministre français Valls, qui a défini la sûreté comme la première liberté, et aux États-Unis, le first freedom, c'est la liberté religieuse. Donc, on a un grand lien génétique entre ces deux droits. Et à l'âge moderne, pour démontrer ces liens génétiques, les droits des libertés religieuses permettaient la naissance de l'État moderne grâce à la domestication du religieux par la distinction entre religieux et séculière. Cette domestication était rendue possible par une interprétation transcendante des traditions eschatologiques majoritaires des monothéismes chrétiennes et juifs. Grâce à un au-delà situé hors de l'espace et du temps humain, les droits des libertés religieuses imposés par les États-nations européennes a pu organiser un espace de spécialisation où les religions ne portent plus un projet politique totalisant. Dans l'après-guerre, une autre forme de domestication, cette fois-ci réalisée avec la coopération des religions européennes, a été à la base des États constitutionnels démocratiques, caractérisés par l'option pluraliste et autonomiste. Mais il s'avérait difficile de domestiquer l'islam, de les transformer et de les traiter comme une confession religieuse, comme une réalité religieuse typique et spécialisée selon les paradigmes du droit européen des libertés religieuses. Ça, on le voit en particulier dans la difficulté à étendre aux musulmans les formes de reconnaissance plus politiques de ces droits. Les concordats, les ententes, les statuts de droit public, etc. Celles qui sont capables de canaliser une spécificité religieuse, mais qui dépendent de la volonté et de la possibilité des groupes religieux à être considérés comme des sujets para-étatiques. En même temps, aujourd'hui, paradoxalement, la sécularisation a transformé les perspectives eschatologiques en favorisant des déclinaisons immanentistes qui renforce la dimension politique des religions, dépasse les clôtures où les religions ont été renfermées et rend plus difficile ou même non plus nécessaire la tâche du droit des libertés religieuses. La liberté religieuse a perdu son objet, on dirait, dans la contemporanéité. Mais domestiquer l'islam est encore à la une des agendas des États européens. On explique ainsi le néo-juridictionnalisme contemporain, la tentative d'une gouvernance étatique du religieux qui vise la construction d'une confession religieuse musulmane par l'invention et la formation d'un leadership confessionnel state-friendly. Il s'agit d'une tâche commune pour tous les États-nations de l'espace méditerranéen, au nord comme au sud. Toutefois, comme on le voit bien, ces processus de confessionnalisation, de domestication, présentent des ambiguïtés et des risques. Ceux-ci sont fondamentalement liés à l'utilisation des instruments et méthodes de la modernité dans les contextes contemporains. Je pense à les risques d'une confessionnalisation statocentrique, déductive et non pas inductive, institutionnelle et nivelleuse, qui est plus substitutive que d'accompagnement du pluralisme religieux qui caractérise les sociétés globalisées contemporaines. Cela se vérifie en particulier lorsque le processus de confessionnalisation contemporaine privilégie, et on l'a déjà entendu avant, les rapports entre États-nations, ceux de résidence et ceux intéressés à contrôler leur diaspora, ou lorsqu'ils s'appuient des préférences sur ses propres citoyens autochtones convertis, mais considérés comme déjà intégrés à un système de valeurs consolidé. Or, il est bien évident que cette confessionnalisation statocentrique finit pas seulement par être contradictoire avec les principes fondamentaux du constitutionnalisme contemporain, mais elle finit aussi pour être insuffisante. Elle n'est donc pas seulement lieu à des politiques fort ambiguës vis-à-vis des États et des sociétés civiles de la rive sud de la Méditerranée, mais elle s'effondre aussi sur des conceptions statiques de l'identité et sur des mécanismes d'assimilation sociale dont les processus contemporains de radicalisation des jeunes convertis révèlent la crise. En plus, cette domestication statocentrique qui n'a pas confiance dans l'autonomie des individus et de la société civile et qui n'accepte pas de revoir, d'élargir une conception de la citoyenneté strictement nationale, finit par attribuer aux leaders confessionnels la représentation globale des intérêts musulmans au-delà du seul domaine religieux. Cela ralentit les processus d'intégration et politique et sociale des fidèles musulmans et aussi leur éventuelle émancipation vis-à-vis de leur propre communauté. Mais une confessionnalisation adaptée à la contemporanéité est nécessaire. Une confessionnalisation fondée sur l'allègement de la dimension strictement étatique et du rôle englobant des hiérarchies religieuses, par la construction d'une citoyenneté capable d'intégrer et de traduire dans des contextes locaux les fondements constitutionnels supranationaux, d'un côté, et de l'autre capable de reconnaître des liens transnationaux religieux et culturels et non pas institutionnels des musulmans en Europe. Une confessionnalisation qui ne sera pas fondée sur les liens transnationaux entre des imams nationaux contrôlés par leur État, mais sur les liens transnationaux des fidèles d'une croyance universelle. Sera aurait des conséquences importantes dans la convergence des droits des libertés religieuses européennes et dans la prise en compte des exigences des identités musulmanes par une citoyenneté européenne pluraliste et partagée. Toutefois, sans l'autonomie de l'islam de la rive sud vis-à-vis des appareils étatiques, une sorte de confessionnalisation primaire, il sera difficile de voir dans la rive nord le développement d'une vraie redéfinition d'une citoyenneté plurielle commune, ce qu'on pourrait appeler une sorte de confessionnalisation secondaire. Trois tentatives de conclusion. Premier, il n'est pas possible de déconnecter, on l'a déjà dit, la question musulmane de celle d'un nouveau pacte constitutionnel, capable dans chaque rive de la Méditerranée d'exprimer l'expérience aujourd'hui partagée de la globalisation et de la pluralisation. Deuxième, nécessité dans la rive sud d'une laïcisation des institutions publiques assurant une confessionnalisation primaire de l'expérience religieuse musulmane et au nord d'une laïcisation non seulement des institutions, mais on pourrait dire de l'espace public au sens large, une laïcisation de la sécularisation, capable d'un côté d'intégrer dans un pacte de citoyenneté ouverte à la supranationalité des espaces pour les moralités et les cultures musulmanes, et de l'autre de favoriser une confessionnalisation plurielle des manifestations religieuses de l'islam. Troisième et dernier, une confessionnalisation facilitant l'entrée des musulmans dans les circuits politiques des États de la rive nord implique la capacité de distinguer entre des identifications culturelles qui peuvent bien être plurielles et transnationnelles et une citoyenneté institutionnelle qui ne devrait être liée qu'au continent de résidence, la citoyenneté européenne, avec l'abandon de la citoyenneté institutionnelle du pays d'origine. Merci.